Du fait de la révolution technologique, nous allons changer de métier plusieurs fois dans notre vie et le métier que vous exercerez dans 10 ans n'existe peut-être pas encore. Je m'appelle Isabelle Rouen, je suis entrepreneur et fondatrice du cabinet de recrutement de dirigeants Colibri Talent. Tous les jours, j'accompagne des femmes, des hommes et des entreprises qui se transforment et qui transforment leur métier. Avec ce podcast des métiers du futur, je vous propose de rencontrer des dirigeants, des entrepreneurs, des chercheurs. Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les métiers du futur. Aujourd'hui, je reçois Nelly Fesseau. Nelly, vous êtes la directrice de l'agence Erasmus+ France Éducation Formation depuis novembre 2022. Erasmus+ est un programme européen qui soutient financièrement des actions, des projets, des partenariats dans les domaines de l'enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport. Le programme vise à donner aux étudiants, aux stagiaires, aux citoyens, avec ou sans diplôme, la possibilité de séjourner dans l'Union européenne pour renforcer leurs compétences et accroître leur employabilité. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de la mobilité européenne. Bonjour Nelly.
Bonjour Isabelle.
Bienvenue au micro du podcast, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Et déjà pour commencer, j'aimerais bien comprendre un petit peu votre parcours et ce qui vous a amené à diriger Erasmus+.
Alors c'est très simple, je fais partie des tout premiers à être partie en Erasmus lorsque j'étais étudiante à Sciences Po Bordeaux.
Vous êtes partie où ?
À Kingston University, donc Kingston Polytechnique à l'époque, devenue Kingston University à côté de Londres en sciences politiques. Et j'ai testé le programme pour Sciences Po.
D'accord. Et votre parcours professionnel, qu'est-ce qui a structuré votre carrière jusque-là ?
Alors, après deux grands temps, un temps dans la culture, à la direction d'établissements publics culturels, en collectivité territoriale au musée de Strasbourg, puis la Grande Halle de la Villette, le projet Cinémathèque française, le musée du Louvre, l'école des arts déco, et puis ensuite un deuxième temps, plutôt dans la formation et l'enseignement supérieur.
D'accord, donc toujours dans la fonction publique ?
Toujours dans la fonction publique. J'ai une passion pour la fonction publique.
Pourquoi, sans indiscrétion ?
L'intérêt général, l'envie d'aider les autres, et voilà.
Bah c'est un beau message et des belles valeurs. Alors, c'est quoi Erasmus+ en 2024 ? Et alors, moi, ça m'a intriguée. Pourquoi Erasmus+ ? Il y a quoi derrière le plus ?
1987, c'est la naissance du programme Erasmus qui a été conçu, imaginé par Domenico Leonarduzzi, qui était un fonctionnaire de la Commission européenne et qui avait à cœur de faire en sorte que les étudiants puissent effectuer une mobilité, puissent bouger, puissent se rencontrer en Europe. Il a durement lutté pour faire en sorte que ce programme soit accepté, puisque tous les chefs d'État et tous les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur de l'époque pensaient que tout le monde allait partir et n'allait jamais revenir. Donc, après trois échecs successifs, mais avec l'aide de Jacques Delors, président de la Commission européenne, il a réussi à faire passer son message, il a réussi à faire en sorte que le programme voit le jour en 1987 pour les étudiants. Et puis, au fil des années, d'autres programmes ont vu le jour, à la fois pour l'enseignement et la formation professionnelle, pour le monde scolaire, pour les jeunes adultes. Et finalement, en 2014, il a été décidé de rassembler tout ça en gardant le mot le plus connu, le mot Erasmus, et le plus, qui signifie eh bien, Erasmus au sens très large et pour tous.
Et alors, c'est qui aujourd'hui les personnes qui participent à Erasmus+ et est-ce qu'il y a quelques chiffres, combien de personnes sont parties, ont bougé en Europe ? Je sais qu'il y a des bébés Erasmus aussi, alors je ne sais pas si vous les dénombrez, mais voilà, c'est quoi les grands ordres de grandeur et un peu la typologie des Européennes et des Européens que vous accompagnez ?
L'agence Erasmus+ finance toutes les mobilités sortantes, c'est-à-dire des jeunes Français ou des moins jeunes qui partent en mobilité dans un des 33 pays qui composent Erasmus+, puisque nous avons les 27 pays membres de l'Union, 3 et 6 pays associés, pardon, dont l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Turquie, la Macédoine du Nord et la Serbie.
D'accord, dont certains sont en procédure d'adhésion à l'Union européenne.
Exactement.
D'accord.
Et donc, au total, ça représente 140 000 mobilités par an. Donc
d'accord.
C'est considérable. À peu près la moitié est composée d'étudiants. Et puis ensuite, l'autre moitié de scolaires, de jeunes en formation professionnelle, en apprentissage, en stage, et de jeunes adultes, ou moins jeunes d'ailleurs, en formation continue.
D'accord. Et depuis 1987, ça a fédéré combien de personnes ?
À peu près 14 millions de personnes en Europe. Donc là
c'est
aussi, le chiffre est colossal. salle. Et ce qui est certain, c'est que plus de 90% reviennent absolument enchantés, changés. Ils ont gagné en autonomie. C'est la première chose que nous disent les personnes qui partent en mobilité Erasmus. C'est « j'ai gagné de la confiance en moi, j'ai gagné en autonomie ». Peut-être avant même l'idée d'apprendre une autre langue. C'est d'abord de rencontrer les autres et de grandir soi-même.
Et puis c'est un programme qui rend la construction de l'Union européenne très concrète. En fait, on peut la toucher du doigt de manière tangible, en fait.
Exactement, et c'était l'objectif des pairs du programme en créant justement ces agences nationales au sein des 33 pays que je vous ai cités, et donc d'avoir un lien direct de l'Europe sur les territoires.
D'accord, et donc vous avez 32 homologues dans les autres pays, c'est ça ?
C'est ça. Alors un peu plus, puisque certains pays ont 2, 3, 4 agences nationales. En l'occurrence, en France, nous en avons 2. Nous avons l'agence Erasmus+ France Éducation Formation et l'agence Jeunesse et Sport, qui est dirigée par Mathieu Roumégous, que je salue.
D'accord. Et comment ça se passe concrètement ? Vous êtes basé à Bordeaux, je crois. Vous êtes combien de collaborateurs ? Ça a quelle tête, en fait ?
Alors, nous sommes un GIP, un groupement d'intérêt public, et nous avons près de 200 collaborateurs, effectivement, et nous sommes basés à Bordeaux.
Alors, le podcast s'appelle Les métiers du futur, et donc l'idée, c'est un peu de comprendre, vous, de votre position de dirigeante, qu'est-ce que vous voyez émerger comme métier en Europe aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des spécificités au sein de l'Union européenne ? Qu'est-ce que vous auriez comme message à partager là-dessus ?
Alors, j'en citerai 4. Les métiers de la transition écologique, tout d'abord, puisqu'ils sont particulièrement prisés par les jeunes, mais également par les entreprises. Donc, nous avons comme priorité du programme cet axe vert, le développement durable.
Et qui est fléché vers certains pays en particulier ou
Pas du tout, mais pour tous les pays, et plutôt fléché sur les projets. C'est-à-dire que nous évaluons les projets à l'aune de ce critère de développement durable.
Super.
Le deuxième axe, c'est les métiers de la tech et de l'innovation, bien sûr. Donc, nous avons bien sûr comme priorité également le numérique. Donc, c'est un axe essentiel pour l'agence. Et puis, je rajouterai 2 autres types de métiers qui, à mon avis, sont essentiels. C'est d'une part tout ce qui est lié à l'humain, les ressources humaines et le management. Et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, Isabelle, parce que je suis chez Colibri. Donc, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et qui ne sera pas remplaçable. Et puis, quatrièmement, les métiers liés à la souveraineté de l'Europe. Et je pense à 3 piliers essentiels que sont la santé, l'agriculture et la défense, notre sécurité.
Alors, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai fait il y a quelques temps, il y a 2 saisons, je crois, un épisode là sur la souveraineté numérique avec justement Thibaut Kleiner qui porte ces sujets-là au sein de la DG Connect et de la Commission européenne. Donc, on voit que les sujets se recoupent. Donc, c'est plutôt très intéressant. Et est-ce qu'il y a, selon vous, des grands enjeux en ce moment de l'employabilité en Europe? Des choses qui se détacheraient de manière majeure?
Alors, bien sûr, développer des compétences transversales, linguistiques, professionnelles, savoir-être, ce que permet Erasmus dans la rencontre avec les autres et l'autonomie dont je vous parlais tout à l'heure. Se former au métier de demain, donc toutes les formations nouvelles qui sont notamment proposées à travers les partenariats Erasmus+.
Vous avez des partenariats avec qui, concrètement ?
Alors, tous les partenariats avec des structures telles que Pôle emploi, par exemple.
D'accord.
Toutes les universités, les grandes écoles, c'est extrêmement large, les CFA pour la
D'accord.
voie professionnelle, les lycées pro, les lycées agricoles, donc c'est très très large.
Vous couvrez tout le spectre.
Et puis, des grands enjeux également autour de la mobilité en alternance. Et là, c'est quelque chose qu'on défend particulièrement avec EuroApp Mobility, qui est présidé par Jean Arthuis, ancien député européen et ancien ministre, qui est très, très impliqué dans cette dimension de la mobilité pour les jeunes en formation professionnelle.
Super intéressant. Et pour en revenir du coup aux équipes, au-delà des 200 personnes dont on a parlé, ça représente combien de personnes au total en Europe ? Est-ce qu'il y a des recrutements en cours ?
Il y a toujours des recrutements en cours, donc je vous invite à aller sur le site de l'agence Erasmus+ France Éducation Formation, bien sûr.
D'accord.
Et puis, nous sommes particulièrement aidés par la Commission européenne, puisque nous avions un budget de 1,1 milliard sur la programmation 2014-2020, et nous sommes passés à 2,2 milliards sur 2021-2027.
Oui, ça fait une grosse progression, c'est chouette.
Tout à fait. Donc, l'essentiel de notre budget est transformé immédiatement en mobilité, et donc ce qui représente à peu près 330 millions d'euros par an. Et nous avons un budget de fonctionnement de 13 millions d'euros par an également.
D'accord. Et 330 millions d'euros pour la mobilité des Français, comment ça se concrétise? Ça va vous payer des frais de scolarité? Vous prenez quoi en charge concrètement?
On prend en charge les déplacements et l'hébergement. Et chaque année, nous lançons un appel à projet au mois d'octobre qui se termine au mois de mars sur les quatre secteurs qu'on a évoqués.
D'accord.
Avec deux clés de répartition, soit les mobilités stricto sensu, soit des mobilités qui s'accompagnent de partenariats. Et donc, nous avons cet appel à projet qui est lancé sur quelques mois. Et ensuite, pendant deux mois, des évaluateurs externes à l'agence qui vont évaluer et noter chacun des projets déposés.
Et ensuite, ils sont classés et ceux qui ont le meilleur note sont financés, c'est ça?
Exactement.
D'accord.
Et nous, les projets sont toujours déposés par des structures qu'on appelle, nous, porteurs de projets. C'est-à-dire que ce ne sont jamais des bénéficiaires finaux.
Oui, c'est des écoles, c'est des
étudiants.
Exactement. C'est des écoles, c'est des programmes.
Exactement.
Et vous, ce que vous prenez en charge, du coup, c'est le transport et l'hébergement, et charge à l'étudiant ou à l'alternant ou la personne en reconversion de payer sa scolarité ou sa formation, c'est ça? Comment c'est fait?
Alors, soit il la paye, soit évidemment, il peut aussi bénéficier d'autres aides.
Le Pôle emploi.
Car la bourse Erasmus n'est pas une bourse exclusive, ce qui fait d'ailleurs son succès, c'est-à-dire qu'un jeune étudiant peut très bien également bénéficier de l'aide à la mobilité internationale, mais aussi de bourses régionales, puisque certaines régions sont particulièrement impliquées dans la mobilité de leurs étudiants.
D'accord, lesquelles en particulier?
Je pense à la Nouvelle-Aquitaine, puisque nous sommes en Nouvelle-Aquitaine.
D'accord.
Et puis, nous avons aussi la région Centre-Val-de-Loire, qui est très active sur le sujet.
Hyper intéressant, parce que du coup, ça fait un lien aussi entre les territoires et la Commission et l'Union européenne. Donc, c'est vrai que ça amène un peu de grain à moudre. Et vous, depuis votre position de dirigeante d'Erasmus+, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme impact sur les jeunes qui arrivent sur le marché du travail? Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes qui aujourd'hui commencent à travailler?
Poser le plus de questions possible, échanger, voilà, ne pas hésiter, aller de l'avant, être curieux, découvrir. Et c'est ce que permet d'ailleurs Erasmus, donc c'est très bien.
Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un en reconversion?
Les mêmes.
Les mêmes?
Les mêmes. Il ne faut pas hésiter, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes sur LinkedIn, eh bien, vous envoyez des messages directement. Il y a évidemment peut-être des personnes qui ne vous répondront pas, mais il y en a d'autres qui répondront. Et si vous avez des contacts directs, appelez, prenez des cafés, échangez. Voilà, il ne faut pas hésiter.
Le réseau. Et comment vous sélectionnez les gens qui bénéficient de la bourse, du coup? Parce que les projets, je comprends, c'est noté, mais les bénéficiaires directs, c'est vous qui les sélectionnez ou c'est le porteur de projet qui fait la sélection? Comment ça marche?
C'est le porteur de projet qui fait la sélection. Erasmus, en soi, est une aide financière, donc une bourse.
D'accord.
Mais après, c'est le porteur de projet qui va cibler sur les types de personnes qu'il souhaite particulièrement aider. Bien entendu, il le met en avant lorsqu'il dépose son projet.
Oui, j'imagine que les critères de sélection sont affichés.
Tout à fait.
Et comment vous évaluez le succès? Vous avez parlé de taux de satisfaction à un moment. Comment vous mesurez ça et quels indicateurs vous regardez en dehors de la satisfaction au retour?
Alors, nous avons beaucoup d'études qui sont réalisées par l'agence elle-même. Donc, nous avons deux personnes qui sont sur tout ce qui est études et prospectives.
Donc, des statisticiens.
Exactement. Et qui travaillent sur l'impact du programme Erasmus. Et nous publions des notes de l'Observatoire qui, là aussi, sont libres d'accès sur le site de l'agence.
Bah, je vais aller voir ça, du coup. Je me rends compte que je n'ai pas assez préparé mon épisode, donc je n'ai pas vu ces notes de synthèse, mais je les mettrai en note du podcast et je vais aller me cultiver un petit peu. Alors, pour finir, moi, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de vous poser, c'est quoi votre journée type aujourd'hui?
Ma journée type est toujours différente de la veille et n'est jamais la même que celle du lendemain, donc différente.
D'accord. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin?
Le café. Le café, puis travailler pour un projet exaltant, des équipes sympas et puis avoir un impact concret pour les jeunes.
Qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit?
Je dors très très bien.
Quelle chance vous avez! De quel succès êtes-vous le plus fier?
D'avoir relancé l'exploitation ostréicole de ma famille, et particulièrement de ma maman.
Ah, racontez-moi ça!
Et pour ça, d'avoir suivi une formation dans un lycée agricole. Voilà, le lycée du littoral de Boursefranc.
Donc, Sciences Po Bordeaux, Brighton, et une formation lycée agricole pour relancer une production ostréicole. C'est
exactement
génial. Donc, vous venez d'une famille d'entrepreneurs.
Exactement.
Super.
Très entrepreneurs.
Très. Alors, racontez-moi ça un peu, du coup.
Ah non, ce serait trop long, Isabelle.
Mais non, vous voulez pas. Donc, du coup, est-ce que vous avez quelque chose qui vous fait vibrer particulièrement aujourd'hui?
Alors, ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est à la fois mes enfants en particulier, les jeunes en général, parce que je les trouve inspirants, solidaires et engagés.
C'est une jolie définition de la jeunesse. C'est quoi pour vous un jeune d'ailleurs ? C'est à quel âge un jeune ?
On reste toujours jeune.
C'est quoi votre prochain projet ?
Les élections européennes, parce que c'est la dimension citoyenne du programme Erasmus et parce que pour nous, c'est important aussi de convaincre toutes celles et tous ceux à qui s'adressent les élections européennes que cette dimension citoyenne est essentielle et qu'on construit notre avenir ensemble.
On partage tout à fait cette vision-là et c'est aussi pour ça que je vous avais proposé de venir au micro du podcast à cette période-là parce que je vous rejoins, il y a un enjeu, l'épisode sort le 20 mars et il y a un enjeu avec le scrutin qui est de mémoire le 7 juin, je ne sais jamais si c'est 6 ou 7 ou 8, mais en tout cas qui est sur la première semaine de juin et qui est vraiment essentiel pour notre démocratie et notre construction européenne. Est-ce que vous avez un livre, un podcast, un contenu, un documentaire, bref, quelque chose à conseiller à nos auditrices et auditeurs qui s'intéressent au futur du travail ?
Alors, je conseillerais « Entendez-vous l'écho » sur France Culture et « Avec philosophie » également sur France Culture. Et puis, en lecture du soir, je lis « Un soir d'été » de Philippe Besson.
Ah, oh, magnifique, voilà. Magnifique. Et si nos auditrices et auditeurs veulent vous contacter, c'est quoi le meilleur moyen ?
LinkedIn, un message direct.
Ça marche, bon, bah, très bien. Merci beaucoup Nelly, à bientôt.
Merci Isabelle, à très bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt.